Bonjour à toutes, chers amis invités. Que le Seigneur puisse nous conduire encore cet après-midi dans le partage de sa parole et nous puissions être conduits par son esprit, remplis de sa présence. Et que le Seigneur, aujourd'hui encore, nous enseigne au travers de sa parole et que surtout sa parole puisse porter du fruit. Les deux fils tant aimés, et nous avons lu. Notez bien le titre, hein, « Les deux fils tant aimés ». Nous avons lu la première partie où, ce qu'on appelle l'histoire du fils prodigue, hein, bien sûr, où nous avons lu la moitié du récit et nous poursuivrons la semaine prochaine. Et j'aimerais insister sur plusieurs points et puis nous allons voir un petit peu le déroulement des événements dans cette histoire. Alors, on va commencer par... développer cette étape, cette phase, je dirais vers la descente aux enfers. Donc le récit commence ceci, le plus jeune dit à son père, hein, puisque le père avait donc deux fils, « Mon père, donne-moi la part de ce qui doit me revenir. » Waouh ! Est-ce que c'est un dû ? Est-ce que là, en fait, il réclame son héritage, alors que papa est encore vivant, comme on dit. Quel culot. Il ne tient même pas compte de la volonté de son père. C'est direct, c'est mon droit, c'est mon dû. Quoi qu'en pense le père, donne-moi. Hein, c'est un ordre. Hein. C'est pas s'il te plaît, voilà, j'ai un projet. Il essaye d'expliquer, non pas du tout. Père, donne. Quelles que soient les conséquences pour la famille, le père, donc, à la demande de ce jeune fils, doit partager ses biens. Quelles conséquences pour la famille ? Aussi bien sentimentale que financière, c'est quand même quelque part une rupture. On a surtout l'affaire, je pense, à une famille aisée, hein, quand même, hein, parce qu'après... On entend parler de mercenaires, donc c'est quand même que le père avait une exploitation et du personnel à son service. Mais alors, moi je me suis quand même posé la question, mais qu'est-ce qu'il manquait donc à ce jeune homme pour demander à son père « Donne-moi. Donne-moi ce qui ne m'appartient pas, mais donne-moi. Ma part, mon héritage. » Donc on voit que le père partage. Entre l'autre fils, bien sûr, et le plus jeune, qui, au verset 2, après avoir tout ramassé, donc il veut profiter seul de sa part, hein, il ramasse tout, hein, il prend son sac à dos et il décide de tourner le dos à tout le monde et de partir avec la besace pleine d'une somme, on va dire, quand même assez importante, hein, je suppose. Il partit. Alors, dans un pays éloigné, hein, volontairement, il met de la distance pour peut-être dans l'espoir, enfin, pas dans l'espoir, mais dans la volonté de ne pas revenir. Sinon, il ne serait pas parti d'un pays éloigné. Il part dans l'indifférence. Il tourne les talons et il va droit devant lui. Il ne se retourne pas. Il n'est pas question de revoir, il n'est pas question de regret, de remords. Il semble plutôt, je dirais, content. Il a obtenu ce qu'il a voulu et le voilà parti. Mais son point de chute, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il avait apparemment une soif de liberté, mais une liberté avec de l'argent, hein, bien sûr, hein. Il avait sûrement soif de plaisir, soif des plaisirs. Il avait déjà soif d'émancipation, parce qu'il a souhaité quitter le foyer. Il avait soif d'indépendance. Et tout cela l'a emmené à dépenser sans compter. Il aurait pu travailler. Il aurait pu, avec cet argent, fonder, bâtir quelque chose. Acheter des terres, peut-être. Acheter une maison. Non. Il est allé au casino, on va dire, on va moderniser la chose. Il est allé au casino ou il est allé aussi dans les maisons de plaisir. Hein ? Il ne semble pas avoir notion d'argent, parce que il dissipa, hein, comme si cet argent qu'il avait entre ses mains le brûlait. Hein, il dissipa, hein, ça, il fallait qu'il dépense, il fallait qu'il montre qu'il avait de l'argent, une certaine notoriété. Hein, quelqu'un qui arrive en ville, un jeune qui arrive en ville, les poches pleines, sans travailler, sans rien, tiens, flambeur. Un jeune flambeur qui débarque en ville. Et de ce fait, hein, de ces quatre premières étapes, ben, il va y avoir des conséquences dramatiques. Voilà, le beau va se transformer en nettement moins réjouissant. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'il eut tout dépensé, voilà, comme ça au moins c'est clair, en peu de temps, il s'est retrouvé les poches vides. Et là, on va dire, certains diraient comme par hasard, une grande famine arrive. Et là, sans argent, sûrement sans travail, hein, il commença à se trouver dans le besoin, forcément. Mais là, il ne peut pas retourner à la maison, là, tout de suite, parce qu'il est parti dans un pays éloigné. Et puis, il n'a peut-être pas envie de revenir, parce que il se dit, mais oh là là, j'avais une certaine somme d'argent et j'ai tout gaspillé. Et là, il se trouva dans le besoin. Il réalise qu'à un moment donné, eh ben, tout ce qu'on dépense et qui ne rentre pas, comme on dit, hein, ben, à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à dépenser. Il n'y a plus de plaisir à acheter. Lui, habitué au superflu, va se retrouver même démuni dans le minimum vital. Parce que quand on dit qu'il commence à se trouver dans le besoin, comment ça surtout, c'est avoir faim aussi. Fini les restaurants où il pouvait... Allez, champagne, et puis, tenez, payer un coup aux autres. Mais même les bourses les plus remplies finissent par se tarir. Avec un certain temps, mais dépenser sans compter fait qu'on se retrouve démuni, dans le besoin, dans la survie. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Verset 15. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît ? Voilà. Il va se retrouver obligé d'aller chercher du travail. Vous vous rendez compte ? Un jeune homme de bonne famille va être obligé d'aller quémander du travail. Pourquoi quémander du travail ? Pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir se nourrir. Donc, il va voir les habitants du pays. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Ben, un des habitants lui dit, bah, moi, le seul boulot que j'ai pour toi, c'est d'aller garder les cochons. Vous vous rendez compte ? Jeune homme en costume cravate qui se retrouve à aller garder les cochons. Quelle descente ! Quelle humiliation pour un jeune homme juif de bonne famille, fils d'un homme riche et respecté, être obligé de travailler. Vous vous rendez compte ? Quelle honte ! Quelle honte ! Mais il est bien obligé de le faire. Et là, il voit ses cochons bien, bien gras, parce qu'ils sont bien nourris, hein, pour leur donner de la valeur marchande, pour les revendre, puis aussi pour les consommer. Et là, il observe et il aimerait bien manger les légumes qu'on donne aux cochons, les carouges. Mais le problème, c'est que personne ne lui en donnait, parce que la, La nourriture, cette précieuse nourriture, n'était réservée qu'aux cochons. D'ailleurs, on voit bien que personne ne se soucie de lui. Peu importe s'il a faim, s'il n'a pas faim, comment il est habillé, il doit peut-être même dormir à côté des cochons. Donc il doit sûrement commencer à avoir une bonne petite odeur sur lui. Puis ses vêtements, son costume-cravate, commencent sûrement à se défraîchir, à être taché, à être malodorant. Alors lui qui était fanfaron, on va dire, hein. Père, donne. Allez, c'est mon droit. Maintenant, il les regarde avec envie le manger des cochons. Il a sûrement dû oublier tout ce que son père lui avait enseigné, même tout ce qu'il avait vu, des gens qui travaillaient dans les champs, à élever les bêtes aussi. Et là maintenant, lui se retrouve dans une situation fort peu enviable. C'est le seul boulot qu'il a trouvé. Et puis toutes ces descentes aux enfers, à un moment donné, verset 17, il est obligé de se dire, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle andouille! Mais j'ai même pas gardé de l'argent, un peu d'argent. J'ai même pas mis un petit peu de côté. Et là maintenant, il se rend compte de son état extrême de misère, il ne peut sûrement pas descendre plus bas qu'être là surveiller les cochons. Il se retrouve dans la souillure aussi. Il reconnaît quand même qu'il a, il n'a pas forcément choisi la bonne solution. Ah, quand le dénuement survient. Ah, quand les attraits et les intérêts ont disparu. Ah, quand sur quoi on s'appuyait s'est écroulé. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le repli sur soi-même déjà, l'introspection. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est même pas qu'est-ce qui se passe, hein. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Là, il rentre en lui-même, hein. Il se parle à lui-même. Pourquoi ai-je fait cela? Mais en plus, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment faire? Comment me sortir de cette situation-là? Puis, donc, forcément, il repense à sa famille, il repense à son père. Il dit, oh là là, quand je pense que mon père, même les mercenaires, hein, même les mercenaires, ils ont du pain en abondance. Et je pense qu'il doit avoir ce goût du pain qui revient dans sa bouche et dire qu'est-ce que c'est bon, un petit morceau de pain, même s'il est un petit peu dur, c'est pas grave. Et moi, je meurs de faim. Je peux même pas manger des légumes. Ah, mais alors du pain, vous vous rendez compte? Donne-moi du pain. Ah, c'était quand même bien chez papa. Et alors, il prend une résolution, verset 18. Il est au pied du mur. Il est au pied du mur. Et là, il se rappelle qu'il a une famille. Et il dit, peut-être pas de gaieté de cœur, hein, mais oh, je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, il va se remettre debout, il va quitter son travail. Donc, en clair, il va démissionner du peu qu'il avait. Donc là, il se retrouve encore avec rien, rien de rien, plus rien. Plus de travail, pas de chez lui, parce qu'apparemment, il n'a pas d'attache là-bas, puisqu'il a tout dépensé. Donc, il reprend rien. Parce que autant il est parti avec les poches pleines, avec le baluchon bien garni, bien rempli, les euros, la carte bancaire, il a flambé, après il a été découvert et compagnie. Hein. Donc il repart sans rien, on va dire nu, démuni. Et il va affronter l'épreuve, parce que vous imaginez un peu l'affront qu'il a fait à son père. Père donne, moi je veux ma part, je m'en vais, je n'ai plus besoin de vous, je n'ai plus besoin de vous, je vais faire ma vie, ce que j'ai envie, ce que je veux, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et là, j'imagine que pendant le chemin, puisqu'il a dû mettre un certain temps pour revenir de ce pays éloigné, il va falloir qu'il surmonte sa honte, son dénuement. Et là, l'humilité est en train de remplacer son orgueil. Il commence à être brisé. Là, je pense qu'il doit avoir les larmes aux yeux. Il doit avoir le cœur gros, comme on dit. Mais tout le long du chemin, je dis, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et il se dit, je vais dire à mon père, je ne suis plus digne, vous rendez compte, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire que, mince, avant j'étais héritier, j'ai pris ma part, je me suis tiré, comme on dit. Et là, il reconnaît que son erreur était tellement énorme qu'il va dire à son père, tu sais vrai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, je ne suis plus digne d'être ton héritier. Parce que papa est encore vivant. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et là, il doit penser au pain. Parce qu'en plus, ils sont logés, nourris. Ils ont du pain en abondance. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ceux qui n'ont pas forcément une très bonne besogne, les mercenaires. Le voici abaissé plus bas que terre. Et donc là, c'est le retour. Il se leva. Conséquence de ces trois premières réflexions, c'est le temps de l'action, du repentir. C'est le temps de la conversion. C'est le temps du demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Avant, qu'est-ce qui lui reste à perdre? La vie. S'il continue dans la situation, dans l'état dans lequel il est, il n'a plus qu'à perdre la vie. Il n'a plus rien. Donc il décide quand même de se lever. Son dernier espoir, sa route de secours. Il va essayer de se rattacher à cette pensée, à cette idée que peut-être qu'en disant ça à mon père, il va accepter. Ou peut-être que papa, quand il va le voir arriver, il va dire « Oh, hey, tu ne m'as pas demandé mon avis, tu m'as dit « donne-moi mon héritage, ce que j'ai droit. » Papa va dire « Mais, hey, tu as eu ce que tu as demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Pars. Tu as eu ton héritage. Tu as eu ta chance. » T'étais pas bien à la maison? De quoi avais-tu besoin d'autre? Pourquoi n'as-tu pas essayé de fonder quelque chose à côté? Si ce qu'on te proposait ne te plaisait pas, tu pouvais faire autre chose? Non, t'as pris ton argent, t'as pris mon argent, je te l'ai donné, tu as tout dépensé, maintenant tu oses revenir? Bon, bien sûr, on connaît la suite, hein, donc ce que je suis en train d'imaginer, mais il ne le sait pas, lui, le fils, ce jeune. Puis sur le chemin, il voit la maison au loin. Ah, ce premier fils tant aimé. Combien de choses à retenir et à apprendre dans ce verset, dans ces récits? Quels sont... Extrapolons, quelles sont les motivations de la jeunesse d'aujourd'hui? La recherche d'indépendance? Oui, c'est une bonne recherche, mais pas forcément d'autonomie. Argent facile? Profiter et tout savoir. Le nécessaire, bien sûr, mais également le superflu qui permet de se sentir exister. Alors on a la perte de la notion de l'argent. L'argent n'a plus de valeur. Profit égoïste, désobéissance, orgueil. Trouvons quelques petits exemples dans la Bible, quelques versets. Dans Colossiens, au chapitre 3, au verset 20, « Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Bon, les enfants ne sont pas là, mais vous leur transmettrez ce verset. Hein, Lisa ? Éphésiens, chapitre 6, verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 22, là, on quitte l'enfance et on grandit un peu plus. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Matthieu, chapitre 15, verset 4, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Et puis dans Exode, chapitre 20, verset 12, c'est vieux, c'est loin Exode, hein, le début de la Bible. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc il y a des messages pour la jeunesse, pour les enfants, pour la jeunesse. On verra la suite, hein, parce qu'il y a d'autres messages. Le fils voulait être, ce jeune fils, puisque c'est le plus jeune qui est parti, il voulait être le maître de son avenir. Son indépendance, partir avec de l'argent, il ne part pas sans rien, remarquez. Il aurait pu partir sans rien. Mais là, il part avec beaucoup d'argent. Et là, dès que nous nous éloignons de la parole de Dieu, dès que nous pensons que nous sommes autonomes, indépendants, nous nous aventurons dans un champ de mine parce que Satan sait où nous conduire. Les conséquences peuvent être dramatiques, comme je disais tout à l'heure, pouvant aller jusqu'à la mort. Quand le fils rentra à la maison de son père, hein, quand, imaginez sur ce chemin, il y a la maison de papa qui est au loin là-bas. Je suis sûr que plus il avance, plus son cœur va battre de plus en plus fort. Il disait au pire, je reçois un coup de fusil, un coup de pied aux fesses, une bonne paire de gifles en pleine figure. Il est prêt à l'accepter parce qu'il continue. Il y va. De toute façon, il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Mon père me chasse, eh bien, je ne sais pas. Ou peut-être que papa, il va me donner quand même un petit morceau de pain. Quand le fils arriva à la maison de son père, il arriva vêtu, je crois qu'il avait quitté le costume cravate. Hein. Il n'était plus en état. Il devait être en haillon, en guenille, avec une odeur certaine qui devait le précéder même. Une odeur de cochon, une odeur de poussière, une odeur de « je ne me suis pas lavé pendant quelque temps ». Et puis il y a papa qui l'observe de loin. Il nous dit que son père voit son jeune fils arriver. Imagine que papa, il devait guetter, se disant « c'est mon fils, je le connais. Je ne sais pas pourquoi il a voulu tout cet argent. Je lui ai donné. Mais je le connais. Papa a dû se dire, je sais qu'il va revenir. Dans un deuxième temps, nous verrons la réaction du père, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, la réaction de papa, et puis la réaction de l'autre fils. Hein, parce que le titre, c'est « Les deux fils tant aimés ». Parce que le deuxième fils a eu sa part aussi. Parce qu'il est, dit que le père leur partagea son bien. Donc la suite, Dieu voulant dimanche prochain, mais que nous puissions déjà repenser au début de cette histoire, de voir que la désobéissance de l'homme, où est-ce qu'elle l'emmène ? Où l'emmène-t-il ? Ce désir d'indépendance. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse vraiment nous conduire dans cette réflexion et nous amener vraiment à la méditation. Amen.